Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Depuis la ville de Brest, nous nous penchons aujourd'hui sur la sécurité maritime dans un contexte géostratégique marqué par une augmentation du désordre international. La sécurité maritime comme préoccupation majeure face aux menaces croissantes qui essaiment, trafic illicite, drogue et trafic migratoire, pêche illégale. Parallèlement, l'instabilité géostratégique est en constante aggravation, suscitant des inquiétudes pour la sûreté des marins et la fluidité du trafic maritime dans des zones géographiques de plus en plus étendues et dont certaines sont d'une importance stratégique pour le commerce maritime mondial. Depuis 2 ans, le conflit en mer Noire, la persistance des problèmes dans le golfe de Guinée et à nouveau la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden monopolisent l'attention en ce mois de mars. À l'initiative de la Marine nationale française, marine africaine et experts étaient rassemblés à Brest pour mettre en place l'édition 2024 de l'exercice de sécurité maritime dans le golfe de Guinée, baptisé Grand African Nemo, exercice annuel depuis son instauration en 2018 qui rassemble les marines riveraines du golfe de Guinée et les nations invitées par la France. L'occasion de faire le point avec nos invités, Virginie Saliou, titulaire de la chaire Mer, Maritimité et Maritimisation de Sciences Po Rennes et enseignante à l'école navale, également chercheur à l'IRSEM. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup.
Le capitaine de vaisseau Emmanuel Belbel, chef de la division de la gestion de l'information et la communication du centre interrégional de coordination de Yaoundé au Cameroun. Bonjour.
Bonjour.
Et le capitaine de vaisseau Gérard Kérébel, officier en charge du Grand African Nemo pour la France. Bonjour.
Bonjour.
Le golfe de Guinée, c'est près de 6000 km de rivage de l'Afrique de l'Ouest allant du Sénégal à l'Angola. Il est ce golfe de Guinée et il fait l'objet d'une grande attention au sein du monde maritime, en particulier du monde maritime européen. Quelles en sont les raisons et que dire de l'importance de cette zone géographique, commandant Gérard?
Oui, écoutez, merci de me donner la parole. Effectivement, le golfe de Guinée est une zone qui intéresse, bien entendu, beaucoup de partenaires qui y ont des intérêts, ne serait-ce que l'approvisionnement pétrolier de l'Europe, par exemple.
5 millions de barils de pétrole qui transitent par le golfe de Guinée chaque jour.
Exactement. Et donc, ne serait-ce que l'approvisionnement pétrolier est un challenge qu'il faut préserver. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous avez de nombreux pays européens qui, bien sûr, tiennent à ce que les eaux du golfe de Guinée soient sûres pour garantir le trafic commercial.
Commandant Belbel, vous souhaitez rajouter quelque chose?
Oui, je pense que je partage entièrement le point de vue de Gérard. Moi, j'ajouterais effectivement que nos intérêts, en tout cas les intérêts du golfe de Guinée et les intérêts de nos partenaires sont intimement liés. Parce que nous devons effectivement sécuriser le transport maritime pour que les pays, les États riverains puissent avoir des revenus pour leur développement.
Virginie Saliou.
Oui, alors en effet, le golfe de Guinée, c'est un hub stratégique à de multiples égards. Le premier a été mentionné, c'est en raison de la manne pétrolière, parce qu'on a près de 5% des réserves de pétrole mondial qui sont dans cette zone et majoritairement en offshore, c'est-à-dire en mer, donc ce qui importe pour la sécurisation de cet espace maritime. Et puis, comme le mentionnait le commandant Belbel, il y a un intérêt aussi croisé, à la fois pour les armateurs européens, et je dirais plus largement internationaux, et les États africains, c'est la dépendance au transport maritime. Cette dépendance au transport maritime, elle est à 95%. Donc ce qui est plus élevé que la moyenne habituelle, 95% des échanges se font par voie maritime dans le golfe de Guinée, depuis et à destination des États du golfe de Guinée, et y compris les États enclavés, c'est-à-dire que des États comme le Niger, ou le Mali, le Burkina Faso vont dépendre de la sécurisation des ports de la côte. Et ça crée des interdépendances extrêmement fortes.
Alors, en 2012, le golfe de Guinée était la région du monde où les attaques signalées étaient les plus nombreuses. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, très précisément, commandant Gérard?
Je crois qu'on peut, à ce stade, donner quelques chiffres. En 2012, dans les années 2012, 2013, 2014, on était à 120, 130 actes de piraterie par an. Nous sommes tombés en 2019 autour de 70 actes par an et on est aujourd'hui à une trentaine d'actes par an. Donc on voit bien cette nette diminution qu'on doit, je pense, en partie au travail que les pays riverains effectuent, aux investissements qu'ils ont faits dans le renforcement de leurs moyens. Et ça devient, je dirais, un peu plus difficile aujourd'hui pour les organisations de pirates de conduire leurs opérations en toute impunité. Donc voilà, donc on assiste là quand même à un renforcement de capacité qui est très intéressant. Bien sûr, le chemin est encore long, mais les progrès sont là et on le vérifie à travers des chiffres.
Alors, on va reparler bien sûr de l'architecture, de la sécurité maritime en Afrique. On a tendance à voir le golfe de Guinée par le prisme de la piraterie. Commandant Belbel, les menaces sont beaucoup plus nombreuses que cela.
Les menaces, effectivement, sont plus nombreuses, transnationales, parce que nous avons une liste qui serait même non exhaustive. Et la piraterie est peut-être la menace dont on parle le plus, mais est-ce que c'est celle qui menace réellement le développement durable du Golfe de Guinée? Je dirais non, parce que certains ont dit que la piraterie était un épiphénomène. Et vous voyez, l'a rappelé tout à l'heure Gérald, les statistiques sont bonnes, mais on doit d'abord savoir que la piraterie reste prégnante. Les pirates, chaque fois que nous mettons en place des modes d'action, ils réfléchissent à trouver d'autres modes. Et donc, nous avons la pêche illicite, qui est pernicieuse. Nous avons le narcotrafic. Hier encore, nos partenaires et les États du Golfe de Guinée étaient en train de parler des missions qu'ils ont effectuées dans le cadre de la lutte contre la drogue venant d'un autre continent et utilisant le Golfe de Guinée comme une zone de transit. C'est vrai que nous ne sommes plus qu'une zone de transit, nous sommes devenus aussi une zone de production et même peut-être une zone de consommation. Donc, il y a plusieurs menaces. Il y a le sabotage des pipelines par certaines communautés riveraines. Il y a le blanchiment d'argent. Il y a le terrorisme dont on ne parle pas, mais on sait que les rançons, après des prises d'otages, alimentent certains réseaux de terroristes qui agissent à terre. Parce qu'on s'est rendu compte qu'aucun terroriste ne dépense son argent pour financer le terrorisme. Le terrorisme est financé par d'autres activités illicites. Donc, pour résumer, la piraterie n'est pas, disons, la menace la plus dangereuse.
Alors, oui.
Ce qu'on peut peut-être aussi rajouter, c'est que les organisations mafieuses qui sévissent dans le Golfe de Guinée n'ont pas une exclusivité sur une action particulière dans le domaine de la piraterie. Ils s'adaptent au milieu. Ils peuvent très bien un jour commettre un acte de piraterie et puis une semaine plus tard se livrer à un trafic de drogue. C'est l'opportunité en fait qui produit l'action. Donc ce sont des organisations qui sont capables de se reconfigurer et de s'adapter en fait à l'environnement.
Donc une grande mobilité. Virginie Saliou, vous voulez rajouter quelque chose? Et j'ai cette question. Finalement, comment se situe le golfe de Guinée dans la cartographie des points de la planète particulièrement chauds?
Oui, c'est exactement ce sur quoi je voulais revenir, en fait, de remettre en perspective. Alors, dans les années 2011-2012, on avait environ 670 actes de piraterie à travers le monde, piraterie et brigandage confondus. Je rappelle peut-être que la piraterie, c'est en haute mer, donc y compris eau internationale et ZEE, zone économique exclusive, et que le brigandage, c'est ces mêmes actes de violence à fin de prédation économique, qui se situent dans les mers territoriales et donc qui ont une différence fondamentale, c'est que dans le cadre du brigandage, seuls les États souverains et riverains ont le droit d'intervenir, alors que dans le cadre de la piraterie, la communauté internationale peut intervenir également. On est aujourd'hui à peu près 295 attaques dans le monde, piraterie et brigandage confondus, finalement, quand on prend le cas du Golfe de Guinée, 26 actes de brigandage identifiés et 4 attaques de piraterie, dont un kidnapping au moins identifié. Ce qui fait que quand vous prenez la comparaison, par exemple, du brigandage avec les Antilles, on a 105 actes cette année 2023, 103 en Asie du Sud-Est. Donc le golfe de Guinée est en deçà de certaines zones. Pourquoi est-ce qu'on en parle plus ? Parce qu'il y a eu précédemment des événements très violents. Quand on était à 150 enlèvements par an autour des années 2019-2020, évidemment, ça marque les communautés. Ça marque les communautés de la marine marchande, ça marque les communautés locales, hein, puisque ce ne sont pas que des armateurs ou de l'industrie maritime étrangère qui peuvent être attaqués. Et la piraterie a ce caractère spectaculaire qui fait qu'elle va être sur le devant de la scène, très médiatique, alors que, comme le disait le commandant Belbel, d'autres menaces sont très fortes dans le golfe de Guinée et affectent l'économie des États riverains. Il ne faut pas dire pour autant que la piraterie n'a pas de conséquences sur les États riverains du golfe de Guinée, puisque en pleine croissance, ils sont presque chacun à 7% de croissance par an de plus, évidemment qu'ils dépendent du commerce maritime pour leur import et leur export. Mais néanmoins, il y a beaucoup d'autres menaces qui affectent la sécurisation du golfe de Guinée.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, ces menaces qui affectent la sécurisation du golfe de Guinée, je me tourne vers vous peut-être, commandant Gérard.
Oui, donc ces menaces, elles ont été citées, hein, elles s'imbriquent parfois les unes dans les autres. Donc, ce que nous essayons de faire au travers de l'exercice Grand Africa Nemo, qui est un grand rendez-vous annuel de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée.
Depuis cinq ans maintenant.
Depuis 2018. Oui. Hein, depuis 2018. Et nous avons, je dirais, depuis 2-3 ans, l'exercice a pris une nouvelle envergure parce que, en fait, notre objectif avec l'architecture, c'est de créer cette communauté maritime, de casser les fonctionnements en silos pour que toute cette communauté s'organise, échange sur les problématiques, parce qu'une marine peut intervenir sur des pirates en mer, mais si vous n'avez pas le serment à terre avec le traitement juridique de l'infraction, en fait, c'est voué à l'échec. Donc on a besoin de cette communauté-là sur tous les segments pour arriver à traiter convenablement les différentes menaces. Et c'est ce que Grand Africa Nemo tente de faire une fois par an, de réunir les acteurs pour, ça participe bien sûr à l'entraînement des marins, mais également de tester les procédures, les façons d'intervenir, le principe de la conservation des preuves. Donc toutes ces choses-là sont vérifiées pour que le jour J, si jamais une intervention est décidée, eh bien elle se fasse dans les meilleures conditions, avec les meilleures chances de succès, pour que les contrevenants puissent être jugés au travers d'un procès, ce qui est quand même l'objectif.
Alors, bien sûr, on parlera justement de tout cela peut-être dans la deuxième partie de l'émission. J'ai cette question pour vous, commandant Belbel. Parlez-nous de l'architecture de Yaoundé sur laquelle vient s'appuyer finalement, je parle sous votre contrôle, Grand American Nemo. C'est compliqué juste pour nos auditeurs. Architecture de Yaoundé, ce sont 26 pays regroupés en deux communautés économiques. La CEAC composée de 11 États et la CDAO composée de 15 États. Pour information aussi, c'est une population cumulée qui avoisine les 470 millions d'habitants. Ce qui fait aussi, enfin, l'une des raisons pour lesquelles on parle beaucoup du golfe de Guinée, c'est aussi du fait du nombre important de pays impliqués, les pays riverains de ce golfe de Guinée. Parlez-nous de l'architecture de Yaoundé.
L'architecture de Yaoundé est un produit du sommet des chefs d'État de 2013 à Yaoundé. Et ces chefs d'État se sont réunis à partir des résolutions des Nations Unies. Si on peut être précis, la 2018 en octobre 2011 et la 2039 en février 2012. Et dans ces deux résolutions, on parle d'un côté, on encourage les États du Golfe de Guinée à se mettre ensemble pour travailler, élaborer des stratégies. Et dans une autre résolution, on demande à nos partenaires de nous venir en soutien chaque fois qu'ils sont sollicités. Et je pense que la dernière résolution, je pense la 2634 aussi, récemment a encore encouragé les partenaires. Et donc, Grand Africa Nemo, en tant qu'exercice interrégional, arrive à point nommé. Parce que c'est une demande de nos États dans le cadre du renforcement des capacités de nos marines. Donc, l'architecture de Yaoundé, disons, c'est 27 centres avec 4 étages. Donc le socle, c'est les centres nationaux que nous appelons dans le langage de la marine, les centres des opérations maritimes ou des centres opérationnels. Donc dans chaque pays côtier, nous en avons 19, de l'Angola au Sénégal, et on a maillé cet espace maritime. Vous avez parlé tout à l'heure de 6 000 km de côte, mais on a plus de 3 500 000 km² de zone économique exclusive. Donc vous voyez que l'espace est très large, et donc on a essayé de mailler cet espace pour rapprocher les forces d'intervention des lieux de commission des actes illicites. Donc on en a 5, et au niveau régional, on a 2 centres, un à Pointe-Noire et un autre à Abidjan, et le centre de Yaoundé. Et donc, nous avons un certain nombre de piliers qui ont été mis en place à partir d'un certain nombre de constats. Le premier pilier, c'est l'échange d'informations. On a constaté à l'époque que les États du Golfe de Guinée n'échangeaient pas suffisamment d'informations sur ce qui se passait en mer. Donc on a dit, vous avez ce pilier. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème de procédure opérationnelle. Il fallait les harmoniser. Et donc, l'exercice Grand Africain Nemo, c'est aussi une occasion de tester nos procédures. Et je pense que jusqu'à présent, on essaye de mettre tout ça en cohérence. On a la formation. Tout à l'heure, on a eu une présentation de l'ISMI. Et je rappelle encore au directeur de l'ISMI que l'ISMI est la fille aînée du processus de Yaoundé pour harmoniser les formations des cadres, des agents d'exécution. On a la coopération avec les partenaires parce qu'on s'est rendu compte que la sécurité maritime ne peut pas être gérée par un pays, par une organisation. La sécurité maritime doit être gérée par tous les acteurs. Vous avez parlé tout à l'heure de la CEAC et de la CDAO. Je voudrais ajouter qu'il y a un mécanisme régional qu'on appelle la CGG, dans la Commission du Golfe de Guinée, qui actuellement regroupe, si je ne me trompe pas, 7 pays et côtiers de l'Afrique centrale et, disons, 2 pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais je pense qu'il y a certains autres pays qui sont admis comme observateurs. Donc, cette architecture a 10 ans. On a eu l'occasion en décembre de parler, d'évaluer d'une manière ou d'une autre le fonctionnement de l'architecture, l'implémentation, l'application de codes de conduite, et on est arrivé à la conclusion que les choses s'améliorent parce que nous avons pu, dans cet ensemble, travailler de commun accord pour lutter contre l'ennemi, entre guillemets, commun, qui est constitué par les auteurs des actes illicites en mer.
Virginie Salieu.
Oui, je voulais revenir sur un point fondamental qui a été mis en avant par le commandant Belbel. C'est que la résolution de 2012 appelle au soutien des États riverains du Golfe de Guinée. Et c'est une différence majeure avec ce qui s'est passé dans la Corne de l'Afrique. La Somalie ayant été déclarée état failli, la résolution concernant la Corne de l'Afrique appelait à lutter contre la piraterie par tous les moyens possibles et tous les États pouvaient intervenir. Dans ce cadre, dans le Golfe de Guinée, on a des États souverains qui peuvent manquer de moyens parfois, mais qui ne sont pas faillis et qui luttent contre la piraterie avec le soutien de la communauté internationale et pas avec une substitution de la communauté internationale dans cette lutte.
C'est important de le préciser. Rapidement, commandant Gérard, la place de la France dans ce système ?
La France, comme les autres partenaires du Golfe de Guinée, ils sont nombreux, essaie de jouer un rôle qu'elle a une connaissance particulière du continent. Et donc, sa place est tout à fait légitime dans cet espace maritime. Mais on voit bien que toutes les bonnes volontés sont à prendre. Comme l'a dit Emmanuel, la tâche est immense. Hein, le domaine maritime est considérable. Et que donc, aujourd'hui, les marines riveraines du Golfe Guinée ne possèdent pas encore toutes les capacités nécessaires pour couvrir cet espace maritime. Et donc, en attendant qu'elles en aient les moyens, eh bien, les partenaires comme la France, mais d'autres aussi, on leur donne cette allonge-là pour qu'ils puissent avoir une vision globale sur leur espace maritime.
Merci Gérard Kérébel. On vous retrouve avec Emmanuel Belbel et Virginie Salieu après le journal. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
regard sur la sécurité maritime dans le golfe du Guinée. Nous retrouvons depuis Brest, où nous nous trouvons, Virginie Saliou, titulaire de la chaire Mer, Maritimité et Maritimisation de Sciences Po Rennes et enseignante à l'école navale, également chercheure à l'IRSEM. Le capitaine de vaisseau Emmanuel Belbel, qui est chef de la division de la gestion de l'information et la communication du Centre interrégional de coordination de Yaoundé au Cameroun, et le capitaine de vaisseau Gérard Kerebel, l'officier en charge du Grand African Nemo pour la France. Commandant Belbel, vous avez évoqué dans la première partie de l'émission, quand on évoquait l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée, vous nous disiez que les choses s'amélioraient. J'ai cette question, est-ce que les États africains sont... pardon, c'est un peu trivial, mais sorti de l'auberge. Pourquoi ? Quelles sont les faiblesses ? Et j'aimerais qu'on aborde cette question un peu peut-être plus spécifique. On évoque souvent les difficultés en termes d'institutionnalisation, d'organisation qui voient le jour sous la conjonction d'une mobilisation d'États africains et d'un appui de partenaires extérieurs dont la mise en œuvre achoppe sur un manque d'appropriation et de leadership. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, commandant Belbel ?
Je voudrais effectivement dire que les choses s'améliorent parce que les statistiques concernant la piraterie maritime, il faut quand même le rappeler que la piraterie maritime était à l'origine de tout ce qui s'est passé à Yaoundé, même si on parle d'autres actes illicites. On a mis en place une architecture parce que les États dont on parle ont décidé souverainement d'aborder le problème de la sécurité maritime sous le prisme global. Ça veut dire que lorsque les États africains se sont rendus compte qu'individuellement, ils avaient du mal à faire face aux menaces qui sont, de par leur nature transnationale, ils ont décidé de se mettre ensemble. Et donc, ils ont fait un sommet, ils ont mis en place une architecture, ils ont mis en place des structures, parce qu'il faut quand même dire que depuis 2013, le CIC est opérationnel, les deux centres régionaux sont opérationnels, les CMC, pour la plupart, opérationnels. Au niveau national, c'est une évidence. Les centres fonctionnent normalement. Il y a des défis. Je ne parlerai pas de faiblesses, mais je parlerai des défis. On a des défis qui sont peut-être inhérents aux structures qui se mettent en place. Et nous allons dans le sens de l'amélioration. Donc, je ne pourrais pas dire que les États du Golfe Guinée sont sortis de l'auberge parce que, en matière de sécurité maritime, comme je disais tout à l'heure, nous avons les chiffres qui sont bons, mais pendant combien de temps ? Donc, nous devons être vigilants. Maintenant, l'harmonisation avec nos partenaires, nous avons des partenaires, effectivement, qui sont désireux de nous aider. Il faut qu'on mette aussi, effectivement, de la cohérence. Et je pense qu'au niveau de la marine française avec laquelle nous travaillons, nous avons réussi à s'entendre pour qu'il n'y ait pas de chevauchement. L'Union européenne, on vient d'avoir une présentation sur le programme ELMA, qui est chargé de coordonner l'action de l'Union européenne dans le domaine maritime, le golfe de Guinée. Nous avons les États-Unis aussi, à l'époque, il y avait d'un côté Obangamé et de l'autre l'APS. Ils ont décidé de regrouper ça en APS. Et je voudrais vous dire qu'au départ, on a eu des problèmes de calendrier. Parce qu'on se retrouvait avec les mêmes activités au même moment. Nous avons travaillé avec nos partenaires pour dire voici la période de Gano, voici la période de Bangamé, voici la période de Mégalops, et ainsi de suite, pour que les mêmes acteurs ne soient pas partagés à un moment.
Alors, je vais vous passer la parole, Virginie Saliou. J'ai juste cette question et envie de rebondir. On évoque souvent, commandant Belbel, les questions de tension et de manque de coopération, de coordination insuffisante.
Vous savez, la coordination, la coopération et la collaboration demeurent des idéaux. Je ne vais pas aller dans un domaine que je ne maîtrise pas, mais je pense que même les organisations qui sont aussi vieilles que le monde, on se retrouve toujours lorsque les pays sont regroupés, les histoires de collaboration, les histoires de coopération, de coordination. Et c'est pourquoi on travaille au jour le jour pour amener tout le monde à être sur la même longueur d'onde. Au niveau du golfe de Guinée, opérationnellement parlant, nous avons réussi à nous échanger des informations. Nous avons réussi à lutter ou à intervenir lorsque un problème se retrouve au niveau interrégional, je donne l'exemple d'un navire en 2020 et en 2021, des navires qui sont retrouvés attaqués dans un pays comme la Côte d'Ivoire, ou bien au large de la Côte d'Ivoire, et qui ont été appréhendés au Nigeria à 110 nautiques. On a pu prendre les pirates à bord, ou les présumés pirates. Ils ont été traduits en justice, ils ont été condamnés. La même chose avec le Togo. Donc, sur le plan opérationnel, on collabore et on coordonne. Parce qu'il y a quelques jours aussi, entre la lisière de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, Nigeria, Cameroun, on a eu un navire qui est parti du Nigeria, entré dans les eaux camerounaises, échange d'informations. Les forces navales camerounaises ont repris ce navire et l'ont remis au Nigeria. Et donc, nous travaillons au jour le jour pour améliorer la coopération, la collaboration et la coordination.
Alors, Virginie Saliou, et après ça, je vous passe la parole, commandant Gérard.
Oui, en fait, c'est parce que je pense qu'il faut remettre en perspective la situation du Golfe de Guinée avec ce qui se passe ailleurs et ce qui se passe chez nous. Ce qui se passe ailleurs, c'est que des pays d'Asie du Sud-Est ou dans l'océan Indien construisent encore leur architecture de sécurité, alors que le Golfe de Guinée a réussi à la mettre en place en moins d'une dizaine d'années, avec des imperfections sans doute, mais comme dans n'importe quelle structure. Ce qui se passe chez nous aussi, c'est que nous sommes toujours en train de construire l'architecture de partage d'informations au niveau européen. Nous avons en France un des modèles sans doute les plus achevés d'action de l'État en mer, de partage d'informations entre administrations, et on va encore trouver des difficultés parfois à échanger certaines informations entre certaines administrations avec des délais qu'on pourrait reprocher. Néanmoins, l'efficacité, elle est là. Elle est là à de multiples égards. Vous avez par exemple 11 États sur les 19 États côtiers qui ont mis en place une centralisation administrative pour mieux partager l'information maritime. Vous en avez 15 sur 19 qui ont adopté une stratégie maritime intégrée dans le Golfe de Guinée. Et vous avez eu par exemple le sommet de Lomé en 2016 qui a réuni l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement africains autour des questions de sécurisation des espaces maritimes et développement de l'économie bleue. À ma connaissance, ça n'est pas arrivé ailleurs dans le monde. Donc il faut voir aussi la prise de conscience qui se fait dans le Golfe de Guinée, sans doute aux dépens d'autres activités qui sont importantes pour eux également dans le cadre de leur développement. Et ça, c'est loin d'être négligeable.
Commandant Gérard.
Je crois qu'on a assisté depuis une dizaine d'années, depuis le sommet de Yaoundé, à une prise de conscience des États africains de l'importance d'avoir une connaissance de leur espace maritime. Alors certains États y étaient plus engagés, compte tenu des activités peut-être pétrolières, d'autres un peu moins, et plus tournés vers l'Interland. Mais cette prise de conscience, elle est là. L'espace maritime à surveiller est immense. Donc nous n'avons pas d'autre choix avec nos partenaires africains que de s'épauler. Aucun pays ne peut prétendre résoudre le problème à lui tout seul. Donc nous n'avons pas d'autre choix que de coopérer. Et donc tout ce que nous faisons ensemble, c'est de mettre en place des mécanismes qui nous permettent d'avoir la meilleure maîtrise possible de cet environnement. Et comme l'a dit Emmanuel, et rajouté aussi Virginie, les progrès sont là, la route est longue, mais je crois qu'on peut être fier des progrès accomplis depuis le sommet Yaoundé.
Alors, vous l'avez évoqué, commandant Belbel, le partage d'informations, il est là, il s'améliore. Il y a un point qui est généralement souligné aussi, c'est le manque d'efficacité des poursuites judiciaires intentées contre les pirates. Peut-être aussi, alors, dans ce domaine précis, un manque de, je ne vais pas dire coordination, mais de coopération. C'est vrai que la mise en place de mécanismes dissuasifs est évidemment compliquée. Quels outils pour lutter en faveur de la sécurité maritime, commandant Belbel ?
Concernant le domaine judiciaire et même juridique, l'un des piliers de la stratégie interrégionale, c'est l'harmonisation des législations. Parce que le constat, effectivement, a été fait en 2013 qu'il y a des pays qui n'avaient pas de législation en ce qui concerne la poursuite des infractions commises en mer. Il y a d'autres qui en avaient, mais qui n'étaient peut-être pas adaptés à la menace qui se présentait à cette époque. Et donc, on a mis en place un pilier en disant « Vous allez harmoniser les législations ». Et donc, dans ce sens, avec un partenaire comme l'UNODC, on a engagé un programme de réforme des législations. Et je pense qu'en 2021, l'UNODC a pu capaciter, je crois, 6 États du golfe de Guinée, et ce qui a permis à ce que le Nigeria puisse, par exemple, poursuivre les présumés pirates de l'attaque contre le Haïlfen, 11, et que le Togo a pu poursuivre en justice les auteurs présumés de l'attaque contre le Jidona Ouan. Et au niveau de la CEDEAO, ils ont adopté un acte supplémentaire pour le transfert des pirates et des biens. Parce qu'on a effectivement constaté que les pirates ou les présumés pirates, connaissant, parce qu'ils sont plus informés que nous, connaissant ces failles, c'est à travers ces failles qu'ils passaient pour opérer délibérément. Donc on a dit, au niveau de la CEDEAO, et ça c'était avec l'appui de l'UNODC, on est en train de travailler pour que l'UNODC étende cet acte supplémentaire vers la CEAC, un pays qui n'est pas capacité, lorsque ce pays appréhende un présumé pirate, il le transfère à un pays qui est capacité pour pouvoir poursuivre. Et donc, les exercices comme Grand Africain Nemo, on en profite pour mettre en place ce qu'on appelle des procès fictifs, avec un partenaire, pour ne pas toujours le citer, l'UNODC Interpol, avec lequel nous avons signé un mémorandum d'entente sur les échanges d'informations. Donc, on met en place des procès fictifs. On va juger les présumés pirates. Donc, sur le plan juridique et judiciaire, les progrès aussi ont été réalisés. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'on doit tout faire pour que les 19 États côtiers et insulaires puissent être capables de juger eux-mêmes, dans leur pays, les auteurs présumés des actes illicites commis en mer.
Commandant Gérard.
Oui, je voulais juste rajouter la difficulté à laquelle on s'est trouvé confronté sur ce plan juridique. On avait déjà une séparation entre les pays anglo-saxons et les pays francophones. Les pays anglo-saxons appliquant la common law et nous, la juridiction française qui est répliquée dans un certain nombre de pays francophones. Et donc, il fallait, dans un premier temps, harmoniser ces procédures et introduire aussi le crime de piraterie dans les législations des pays, parce que ça n'existait pas. Et donc, il y avait une faille. Et donc, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un gros progrès qui a été fait. L'acte supplémentaire mis en place dans la CEDEAO et qui, j'espère, va être répliqué dans la CEAC, répond parfaitement aux besoins. On était confrontés à cette situation où on arrêtait des gens en mer. Et en fait, si ça se passait dans un pays qui n'avait pas de législation adaptée, eh bien, la procédure s'arrêtait. Aujourd'hui, je crois qu'on s'est donné les moyens de pallier à cette défaillance. Et les premiers procès sont là pour le témoigner. Hein, et donc, nous espérons que ça fera boule de neige et que d'autres pays pourront en faire autant.
Donc, Grand Africain Nemo, ce ne sont pas seulement des manœuvres dans le golfe de Guinée. C'est ça qui est important de souligner, commandant Gérard.
Oui. Tout à fait. Donc l'exercice, effectivement, l'exercice qui dure à peu près une semaine, qui se déroule au mois de novembre, est précédé par donc une phase de planification, mais une phase de planification, bien sûr, de l'exercice et des scénarios qu'on va jouer pendant cette semaine d'exercice en novembre. Mais c'est également une année de formation dans tous ces domaines-là, c'est-à-dire les aspects juridiques, les aspects d'intervention en mer, les aspects de conservation des preuves, tout ce qu'il faut faire de manière exacte pour que le moment venu, c'est-à-dire donc la partie juridique, le traitement juridique de l'affaire, eh bien on ne puisse pas mettre d'un revers de la main le dossier parce qu'il y aura eu une faille dans la procédure. Donc ce sont toutes ces procédures qu'on teste et on essaye de tirer par le haut les pays qui sont un petit peu en retard pour que dans un horizon que j'espère le plus proche possible, tout ça soit harmonisé et qu'on parle tous le même langage. Voilà, donc Grand Africain Nemo, mais comme l'exercice Obangame Express de la marine américaine aussi, ce sont des exercices qui ont pour objectif de mettre en situation les gens, de toute cette communauté Gano, donc les marines, les partenaires, l'ONUDC, Interpol, l'Union européenne, donc pour que tout ça se mette en cohérence et qu'on agisse sur les différents segments et les différentes menaces, hein, comme on l'a dit. Hein,
voilà. Une mise en cohérence, Virginie Saliou, avec cette prise de conscience que les actes illicites menace l'essor économique de toute la région et des pays riverains.
Oui, absolument. Alors, juste pour rebondir sur l'importance de l'ensemble de la chaîne, de la prise de preuves pour amener au procès et l'harmonisation législative, je dirais aussi l'harmonisation de la sanction. Ça, c'est un travail qui est extrêmement important, parce que si vous avez quelqu'un qui est fortement condamné dans un pays, mais qui ne l'est pas dans le pays voisin, évidemment, ça favorise en fait le développement de ces menaces. Et comme vous le disiez, ces menaces, elles sont nombreuses. On a parlé de la piraterie, on a un peu parlé de la pêche illégale,
On en parlera dans l'émission de la semaine prochaine.
Exactement. Et on a surtout une question relative au développement de ces pays pour le développement de l'économie bleue, notamment. C'est la lutte, tout d'abord, contre les pollutions marines, qui sont de trois ordres dans le golfe de Guinée. Vous avez des pollutions de type accidentelles, alors qui sont dues essentiellement à la vétusté des pipelines et des installations offshore. Vous avez également des pollutions qui sont volontaires, et qui sont là dues au fait qu'il y ait des dégazages de navires qui rentrent dans la zone, la sachant polluée. Et puis des pollutions qui sont plutôt d'usage, qui viennent de la terre, hein, les pollutions plastiques et les pollutions aux métaux lourds notamment, qui sont importantes et qui vont affecter en fait le milieu marin et donc les moyens de subsistance des populations locales. Et puis vous avez une autre menace dont on n'a pas parlé, alors menace ou risque, qui est celle des migrations par voie de mer, qui est en forte augmentation dans le golfe de Guinée. Vous avez dans le fond du golfe des trafics d'enfants et de femmes par voie de mer qui créent des problèmes d'insécurité, notamment de search and rescue, avec des besoins de sauvetage. Et puis vous avez également des migrations vers les îles européennes, principalement en provenance du Sénégal cette fois-ci, qui augmentent de façon exponentielle. On est passé de 6 000 à 9 000 en 2 ans, migrants sauvés. Donc ça veut dire qu'il y a eu plus de migrants par voie de mer. Et ça, c'est important. Et dernier point, dans les risques à venir, je voudrais insister sur les découvertes de pétrole et de gaz offshore. Parce que ça, c'est aussi lié au développement de convoitises et donc qui peuvent attirer en fait, de nouveaux pirates et de nouvelles activités illégales.
Ce qui laisse présager un avenir peut-être pas forcément très clair, peut-être un peu nuageux. Commandant Balbel, je vais vous laisser la conclusion à cette émission.
En termes de conclusion, je dirais que l'architecture de Yaoundé se met en place progressivement. Nous avons un certain nombre de défis. Nous avons aussi beaucoup d'opportunités. Hein, et nous avons nos partenaires qui sont à nos côtés. Il nous aide sur tous les plans. Nous avons un réel problème de savoir ce qui se passe en mer de la part même des armateurs. Parce que nous n'avons pas le privilège d'avoir ce qu'on appelle le reporting volontaire, d'abord pour les statistiques, moins pour les statistiques que pour les interventions. Lorsque un incident arrive en mer contre un navire dans le golfe de Guinée, nous souhaiterions que les centres les plus proches du lieu de commission de cet incident soient informés pour l'intervention et pour les statistiques. Parce que en termes de statistiques, nous ne nous entendons pas, parce que nous n'avons peut-être pas les mêmes critères. Mais le problème, c'est plus au niveau de la notification. Parce que lorsqu'un incident se passe et que la nouvelle nous parvient parfois des heures après, l'incident est clos. Donc, nos partenaires stratégiques, techniques, nous travaillons main dans la main, mais l'industrie maritime ne répond pas encore à l'appel. Donc c'est pourquoi nous travaillons sur ce qu'on appelle le dialogue maritime avec l'industrie maritime, les armateurs, pour améliorer ce qu'on appelle la connaissance du domaine maritime. On parle de MDA par son acronyme anglais. Donc en termes de conclusion, j'en appelle encore plus de collaboration entre l'architecture de Yaoundé et ses partenaires, et notamment l'industrie maritime.
Merci, capitaine de vaisseau Emmanuel Belbel. Je rappelle que vous êtes chef de la division de la gestion de l'information et la communication du Centre interrégional de coordination de Yaoundé au Cameroun. Merci aussi au capitaine de vaisseau Gérard Kerebel, officier en charge du Grand African Nemo pour la France, et Virginie Saliou, titulaire de la chaire Mer, Maritimité et Maritimisation de Sciences Po Rennes et enseignante à l'école navale, également chercheur à l'IRSEM. Géopolitique était signé Marie-France Chatin et Bertrand Éclair à Brest, Nathalie Laporte à Paris. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.